débat. Aujourd'hui, on va plus spécifiquement aborder le diagnostic de la séroïde lipofuscinose neuronale de type 2. Et pour débuter notre entretien, qu'en penser à une CLN?
Alors, les CLN sont un groupe assez hétérogène de maladies rares de l'enfant et de l'adulte. Les CLN sont des maladies neurodégénératives qui vont toucher de façon élective différents organes, mais les organes qui sont riches en neurones, c'est-à-dire le cerveau et l'œil, et dans le cerveau, le cortex et le cervelet. Ce qui veut dire que de façon différente dans les différentes formes de CLN, on va avoir plus ou moins une cécité qui est d'origine d'une atteinte de la rétine, plus ou moins des signes moteurs et notamment cérébelleux avec une ataxie, trouble de l'équilibre, et puis également des signes de dysfonction neuronale du cortex cérébral que peut être différents types d'épilepsie ou différents types de crises d'épilepsie qui peuvent se manifester, et également avec le temps, la grande caractéristique de ces maladies neurodégénératives, c'est que les symptômes vont progresser d'année en année, voire même parfois plus rapidement, de mois en mois, les symptômes vont s'aggraver.
Alors justement, pour ces patients chez lesquels on suspecte une CLN, que faire en attendant un avis spécialisé?
Je pense qu'il faut surtout repérer les patients assez précocement et en attendant l'avis spécialisé, il faut surtout accompagner les familles, je pense, et puis surtout adresser au bon endroit pour ne pas forcément avoir de retard diagnostique. Je pense que la mission des soignants de première ligne, c'est de lever le drapeau rouge et d'adresser au bon spécialiste pour aller au diagnostic.
Alors, vous venez de l'aborder rapidement. Pour cette maladie neurologique rare, comment éviter l'errance diagnostique et le retard dans la prise en charge?
Parlons un peu plus spécifiquement de la CLN2, qui est une forme infantile, qui débute entre 2 et 4 ans pour les premiers symptômes. Et en fait, les drapeaux rouges vont être toute épilepsie qui comprend des myoclonies épileptiques. Alors c'est un peu spécialisé, mais c'est quand même particulier chez l'enfant. Il y a peu d'épilepsies qui comprennent les myoclonies. Jusqu'à la preuve du contraire, il faut y penser. Et donc on va de toute façon conduire un bilan qui va rechercher un certain nombre de causes pour ces épilepsies qui comprennent des myoclonies épileptiques. Et une de ces causes qui est systématiquement recherchée, c'est la CLN2. Même chose, les patients qui ont une épilepsie qui s'associe à un retard dans le langage ou dans la motricité, et ce retard ne se comble pas, voire même s'aggrave, doit faire évoquer une séroïde lipofuscinose de type 2, en particulier quand c'est entre 2 et 4 ans. Le dernier point qui me paraît important, dans les éléments paracliniques, qui sont souvent réalisés dans le cadre du bilan d'une épilepsie, quel que soit le type de cette épilepsie, pour rechercher la cause de l'épilepsie, on fait souvent une IRM. Toute atrophie cérébelleuse dans le cadre d'une IRM d'une épilepsie doit conduire, c'est un drapeau rouge, il faut penser à la séroïde lipofuscinose de type 2. Et puis après, certains aspects EEG qui ne sont pas systématiquement retrouvés, mais pendant un enregistrement EEG, il y a différentes séquences. Il y a des séquences où l'enfant est au repos, il y a des séquences où l'enfant dort, et puis il y a des séquences de stimulation. Les deux stimulations les plus fréquentes, c'est de faire respirer de façon ample, ce qu'on appelle l'hypercapnie, et puis après, c'est de faire une stimulation lumineuse intermittente. Et on peut avoir des signes spécifiques dans ces stimulations lumineuses intermittentes, en particulier quand les flashs de cette stimulation sont à basse fréquence, 0,5, 1 et 2 Hz, ça peut entraîner des pointes à l'EEG, entraîner exactement au même moment que les flashs, et là aussi ça doit faire évoquer la séroïde lipofuscinose de type 2. A l'inverse, l'absence de ces anomalies à l'EEG n'exclut pas le diagnostic, ça c'est aussi un élément important à savoir.
Et une fois qu'on a évoqué la possibilité de CLN2, comment confirmer le diagnostic?
Alors, la confirmation, elle vient souvent dans un milieu spécialisé, c'est-à-dire que dès qu'il y a un de ces drapeaux rouges, je pense qu'il faut vraiment adresser à un neuropédiatre, à un service qui a les moyens d'avancer dans le diagnostic. Et le moyen de diagnostic, il y en a différents. On peut faire soit un dosage enzymatique, par exemple, pour la séroïde lipofuscinose de type 2, c'est la tripeptidylpeptidase qui est déficitaire. Ou autrement, on peut faire une analyse du gène CLN2 pour voir s'il y a une anomalie et si cette anomalie sur le gène, en effet, est une anomalie qui est connue pour être pathogène. On peut aussi faire les deux. Mais les deux moyens peuvent conduire au diagnostic.
Alors, pour conclure notre entretien, professeur Roubin, quel diagnostic différentiel faut-il écarter?
Alors, plus que faire un listing de diagnostics différentiels, j'ai envie d'un peu de revenir sur le contexte. Dans les épilepsies qui comprennent des crises myocloniques, des myoclonies épileptiques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait un bilan. C'est souvent un bilan qu'on arrive à faire sur une seule journée, hein, en hôpital de jour. Et en fait, on va regarder toutes ces épilepsies qui donnent des myoclonies, parce qu'il y a peu d'épilepsies myocloniques qui n'ont pas une cause sous-jacente chez l'enfant. Et entre autres, ça peut être différents types de maladies, d'autres maladies de l'atteinte du lysosome autres que la CLN2. Ça peut être également des maladies d'utilisation de l'énergie, par exemple des maladies directement de la mitochondrie, ou de façon indirecte, par exemple, si l'énergie n'est pas transportée comme il faut vers le cerveau. Par exemple, on connaît des formes d'épilepsie qui sont liées à un défaut du transport du sucre entre le sang à travers la barrière hématoencéphalique jusqu'au cerveau. C'est le déficit en transporteur de type GLUT1 pour le glucose. Et en effet, ça donne facilement des épilepsies avec des myoclonies. Et donc, en fait, l'ensemble de ces éléments sont recherchés. Même chose dans le cadre des enfants qui ont un retard associé ou une régression associée. Là aussi, on va rechercher un certain nombre de causes, toujours les maladies lysosomales. Toute régression doit faire rechercher des maladies progressives, mais ça peut être aussi simplement une stagnation dans le temps et qui se maintient. Et finalement, il y a des progrès, ce n'est pas tellement régressif. Et dans ce cas-là, on est plutôt dans le cadre de bilans de retard, comprenant des déficiences intellectuelles d'origine monogénique qui peuvent donner des épilepsies, soit avec myoclonie ou sans myoclonie d'ailleurs. Donc en effet, dans ce cas-là, c'est plutôt une démarche de recherche génétique, plus qu'un aspect, si on peut se permettre de le dire, métabolique, comme je l'ai évoqué avant.